nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Conversation, il lui demande si sa femme ne lui a pas parlé de son fameux secret littéraire. Il lui répond que non. Le jeune homme se dit que la jeune femme ne l'a pas trouvé suffisamment intelligent pour lui dévoiler ce secret. L'écrivain meurt lui aussi. Le secret est définitivement perdu. Le jeune homme se dit que cette quête qui lui a pris des années ne savait qu'à lui faire dégoûter les écrits de son auteur favori. Voilà, Apolline lui demande, et quel est le secret des livres? Il lui répond, je ne sais pas. Alors tu vas écrire tout ça sans savoir le secret? Il lui dit, oui. Qu'importe le secret, ce qui compte, c'est la recherche de ce secret et jusqu'où il a mené. La subtilité du livre, ce n'est pas le secret, mais la façon dont on décrit le secret. C'est de rendre palpitante une histoire où il ne se passe rien, où l'on aboutit à du vide. Mais ne t'en fais pas, je vais tout faire pour que les gens soient intrigués et aient envie de continuer à lire. Elle lui dit, mais à la fin ils vont être déçus. Il lui répond, ils ne s'en rendront pas compte, car si je réussis le livre, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils doivent avoir la tristesse que le héros n'est pas le secret, mais c'est tout. Il faut pour cela que le lecteur soit passionné par le secret, mais en même temps sympathise avec le héros et soit triste pour lui et non avec lui. Elle lui dit, ça ne va pas être très facile. Non, mais je vais prendre le temps. Et puis, ce ne sera pas un gros livre. peut-être une centaine de pages. Car autrement, si c'est trop long, le lecteur va se lasser de ce secret à chercher. Mais avant, il faut que je trouve à faire éditer ce Saint-Vincent. Elle lui dit, les gens vont être déçus après ce que tu as écrit. Ils vont croire que tu t'es vendu. Il lui dit, ils ne le croiront pas longtemps, car je vais leur montrer avec mon livre suivant que je suis un écrivain libre et veux traiter de tout, des saints comme des criminels. Elle l'embrasse et se lève. Je dois sortir. Et sort de la pièce. Quelques jours plus tard, Charles André demande un entretien à son éminence le primat des Gaules. Le primat lui envoie un mot pour l'inviter. Charles André va dans le bureau de son éminence, un manuscrit à la main. Entrez mon ami et asseyez-vous. Charles André va s'asseoir. Le primat lui demande, vous avez quelque chose à me dire, mon fils? Mon éminence, je suis venu vous présenter mon manuscrit pour que vous puissiez le lire et que je puisse vous le dédier. Il lui tend le manuscrit. Le primat lit le titre, La vie de Saint-Vincent, le bon monsieur Vincent. Bon, très bien, je vois que vous avez voulu vous faire pardonner cette chose que vous avez écrite. Je savais que la brebis égarée allait me revenir. Et vous revenez avec Saint-Vincent, le saint des pauvres, celui qui a soigné les plaies de la misère. Pourquoi avez-vous choisi ce saint? Parce que je l'aime et puis je sens en lui quelque force extraordinaire. Oui, vous avez raison. Il a de la force, c'est ce saint. Vous allez le faire éditer prochainement? Malheureusement, je n'ai pas d'éditeur. Comment cela? Et celui qui vous a édité pour l'autre? Ça ne l'intéresse pas. Oui, je vois. Il préfère les œuvres impies. Laissez-le-moi. Je vais le faire éditer, moi. Je connais quelqu'un. Je suis venu, mon père. Le livre vous est dédié et je le dis sur la préface. Je l'écris en disant que j'ai eu cette idée, l'idée de ce livre, en pensant à vous, à votre bonté, charité. Merci, merci. Je suis très touché, mais je n'aurais jamais présenté ce livre à mes amis. Ils vont croire que je m'enorgueillis de ma charité. Pourtant, mon éminence, ce que vous avez fait durant les émeutes des Canuts, tout le monde l'a vu. Le primat est tout rouge et dit, je n'ai fait que mon devoir. Il fallait bien arrêter la racaille pour que les braves gens puissent être en sécurité. Vous avez sauvé la bourgeoisie lyonnaise. N'exagérons pas. J'ai simplement dit à l'armée qu'ils pouvaient tirer, que c'était leur devoir. Mais tous ceux... Tout ça, c'est fini, et c'est très bien fini par l'ordre, car l'ordre règne à Lyon, n'est-ce pas? Et sans l'ordre, on ne peut rien faire. Saint-Vincent aussi aimait l'ordre. Nous allons boire un petit quelque chose avant que vous partiez. Ne craignez rien, ce n'est pas de cet infect Beaujolais, mais un bon Bourgogne.
Il se lève pour aller à sa bibliothèque. L'ouvre, tire quelques livres, peut prendre une bouteille et deux verres.
C'est ma coffre personnelle. Il dépose tout sur le bureau. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas moi qui m'occupe de la cave. Et à part le vin de messe, le reste est de la infecte. Ce n'est que de la piquette du coin que l'on force à boire.
Ils boivent.
Le primat continue. C'est comme pour les menus, des repas. J'ai rien à dire. C'est le cuisinier qui décide de tout. C'est pas drôle d'être éminence.
J'avais aussi des joies, comme celle d'aider des âmes à prendre le bon chemin.
Oh, oui, oui, oui.
On a frappé à la porte.
Entrez.
Un petit abbé, tout maigre, aux cheveux blondis. Mon éminence, il est bientôt l'heure de partir.
Oui, 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 merci.
Et le petit abbé ferme la porte.
L'éminence se lève et dit « Je veux m'en envoyer, mais je dois me préparer, car je suis invité à un déjeuner. »
Chalandré se lève, se penche et lui dit « Au revoir, mon éminence.
Au revoir, mon enfant, et merci pour le livre. »
Et Chalandré quitte la pièce.
Un jour plus tard, il reçoit une lettre du primat des Gaules lui disant que son livre va être édité très prochainement et que pour cela, il ne manque que sa signature pour le contrat. Il doit se rendre aux éditions de l'Eucharistie.
Un après-midi que Charles-André est dans sa chambre à écrire, on a frappé à la porte.
Entrez.
C'est la bonne. Monsieur, il y a des gens de la police qui désirent vous voir.
Ah, bien. Menez-les dans le petit salon.
Bien, monsieur.
Et la bonne ferme la porte.
Charles-André est inquiet. Ils viennent sûrement pour Denise, ou Paul, ou Adrienne, ou Mathilde, ou pour tous en même temps. Je sais bien, c'est que la guillotine est la fureur de l'ennemi.
Le vent est tiré, il faut le boire. Il se lève pour sortir de sa chambre.
Il est entré au salon.
Il y a deux hommes en civil. Ils sont grands, minces, fines moustaches et cheveux noirs, dans les 45 ans, habillés d'une redingote marine. Jean-André leur demande « Vous désirez, messieurs ?» L'un des hommes lui répond
« Nous sommes de la police, inspecteur Legrand et mon confrère Dupuis. Pardonnez-nous de vous importuner, mais nous avons quelques questions à vous poser. »
Je vous écoute, messieurs.
Nous faisons une enquête au sujet d'une famille Sommet. Une madame demi-Sommet est partie de Monte-Carlo il y a de cela un mois pour venir vous voir et la famille n'a plus de nouvelles de leur mère. Nous avons fait une enquête, la personne est bien arrivée au Savoie, y a séjourné deux jours, puis est partie.
Avez-vous eu des nouvelles de cette personne?
Non, pas depuis la dernière fois. L'inspecteur lui dit, la dernière fois, c'était le matin où vous êtes venu la voir à l'hôtel.
Oui, monsieur.
Vous a-t-elle dit quelque chose qui pourrait nous mettre sur la voie pour savoir où elle est?
Non, elle m'a dit seulement qu'elle quittait l'hôtel pour aller à Monte Carlo.
Elle était venue vous voir pourquoi?
Oh, une histoire assez compliquée. J'ai connu cette personne à Monte-Carlo où j'ai séjourné. Elle s'est mise dans la tête de se faire épouser. Je ne voulais pas, bien entendu. Elle avait l'âge de ma mère et ses enfants étaient presque de mon âge. Mais elle s'est obstinée. J'ai quitté Monte-Carlo. Elle est venue en France pour m'obliger à m'épouser. Je lui ai fait comprendre le ridicule de l'affaire et nous sommes quittés. Voilà.
Rien de plus ?
Non. Bien, bien. De toute façon, cette personne est bien partie de l'hôtel et a bien pris le train. Le concierge de l'hôtel, un cocher, l'ont vu. Ils ont été obligés de faire enquêter sur tout le trajet du train. Elle a dû descendre à une gare. Vous viendrez signer votre déposition de ce que vous nous avez dit, disons demain matin. Cela vous va ?
Oui, votre inspecteur lui dit.
Nous avons fait une enquête discrète sur vous. La disparue avait fait appel à un avocat pour vous demander des dédommagements parce que vous l'aviez demandé en mariage.
C'est faux. C'était elle qui avait dit à tout le monde que nous étions fiancés, d'ailleurs sans prévenir.
Bon. Mais autour de vous, il y a de drôles de disparitions. Ou disons plutôt de morts subites. Votre séjour à Paris,
j'y suis pour rien. Et puis, ces gens se droguaient et fréquentaient des personnes plus ou moins louches.
L'inspecteur lui dit. Ne nous énervons pas, monsieur. Nous n'avons aucune preuve. Et puis, notre travail, c'est la disparition de cette Denise Sommet. Alors, à demain pour la déposition. Et il le quitte.
Après la visite des inspecteurs, il va frapper à la chambre de sa sœur.
Entrez.
Elle est assise à sa table à écrire.
« Ah, c'est toi ?»«
Oui. » Il va s'asseoir en face d'elle.
J'ai reçu la visite de deux inspecteurs et lui raconte tout. Elle lui dit « Il y a eu un mort de trop. »«
Parce que tu l'as tué, n'est-ce pas ?»
Il hausse les épaules et lui dit
« Oui. » Que voulais-tu que je fasse ? Elle aurait détruit ma vie.
Je ne regrette rien.
Et puis j'ai tout fait pour qu'on ne m'accuse pas de ce crime.
Ils ont parlé aussi des morts de Paris.
Cela le semble beaucoup.
Elle lui dit.
Pour ça, oui, ça fait beaucoup.
S'ils prouvent que c'est nous, nous sommes perdus.
Il lui demande.
Que devons-nous faire ?
Elle lui dit.
Nous tuer pour éviter que l'on vienne peut-être nous chercher pour nous juger et nous guillotiner.
Voilà. Ou alors on attend. Comme ça.
Il lui dit, c'est pas réjouissant.
Elle lui dit, que veux-tu ?
Nous sommes damnés.
Elle se lève pour aller s'allonger sur le lit. Il se lève pour se mettre à côté d'elle.
Elle lui dit, nous sommes le frère et la sœur criminels et amants. Notre vie est à jamais damnée. Il ne nous reste plus qu'à mourir pour ne pas subir la sentence des hommes. Il lui demande, tu crois ?
Elle lui répond, oui.
Il lui dit, comment devons-nous mourir ? Il y a plusieurs façons de mourir. Le poison, le poignard. Celle de se laisser glisser dans la vie sans résistance. Moi, je sais que je ne regretterai rien. Je m'ennuie tellement dans cette vie. Et puis, tout ce que nous faisons est criminel. Nous sommes des damnés, perdus. Il vaut mieux qu'on en finisse.
Il lui demande, comment ?
Elle lui dit,
J'ai encore du poison de Mathilde. » Elle se soulève et ouvre le tiroir de la table de nuit. Un grand petit flacon de verre. On voit un liquide marron foncé. Elle débouchonne. On a frappé à la porte. Ça l'a fait sursauter et lâche ce flacon qui tombe à terre et se brise.
Qui est-ce ?
Madame, c'est pour vous annoncer que le dîner est servi.
Bien, j'arrive. Elle soupire.
Jean-André lui demande : qu'allons-nous faire ?
Elle lui dit : le destin choisi, il faut nous laisser glisser.
Ils se lèvent tous deux et sortent de la chambre.
Il est allé au commissariat déposer sa déposition et signer. On lui a dit qu'il n'y avait rien de nouveau et que l'on cherchait encore. Cet interrogatoire a troublé Charles-André et se dit qu'il doit en faire attention. Mais il n'a aucun remords. Le remords vient de l'éducation. C'est la conscience dramatique du geste que l'on a fait. Malheureusement, cette conscience peut être relevée d'une façon froide, sans sentiment. Ceci est dû par l'insociabilité, la non-reconnaissance d'appartenir à un groupe, sentir seul et unique et n'avoir qu'un seul but, soi. Les personnes qui trônent la liberté de l'individu en lui enlevant les chaînes, comme ils disent, de la famille, de la nation et en plus de la religion, font des générations de jeunes froids, sans remords de leurs gestes, qui ont l'impression d'appartenir à personne. Charles-André est à peu près comme ça, mais pas totalement. C'est dû à son éducation, à sa jeunesse très renfermée et à ce qu'il est des désirs hors normes, comme l'opium par exemple. Mais comme il est artiste, il peut rectifier tout ça, car la création le force à voir le monde pour le recréer. Le temps passe et pas de nouvelles dans les recherches sur Denise. Le dossier est en veilleuse en attendant quelque chose de nouveau. Le corps de Denise n'est pas retrouvé. Il reste bien amarré à sa cheminée. Dans quelque temps, on retrouvera peut-être un squelette avec des bouts de chair habillés de lambeaux qui semblent être ceux d'une robe ou d'une chemise de nuit. Charles-André a commencé à travailler pour son père. Son bureau, il reçoit les réclamations des locataires, se trouve en plein centre de Lyon et c'est un pas de porte dans un vieil immeuble. Il est là pour recevoir les réclamations et le loyer. Ce n'est pas drôle, car le Français n'aime pas dépenser pour se loger et trouve toujours que c'est au propriétaire de faire les réparations. Donc, travail fastidieux ou dans une minuscule pièce triste et pas très propre, il note sur un grand cahier les doléances des locataires et leur loyer. Quelquefois, lorsque le locataire a du retard pour payer, il est obligé de se déplacer. Il n'aime pas ça, car on le prend pour un employé. On le reçoit à la cuisine ou dans la hall. Quelquefois, l'on pleure, l'on crie, on rouspète, on ne veut pas payer son loyer, tant que les réparations ne seront pas faites. Et aussi, on ne lui ouvre pas. Riche ou pauvre, le locataire se comporte aussi mal avec lui. Les journées de travail sont longues, pénibles, où on vous rabâche toujours la même chose. Vous voyez toujours le même genre de gens qui font grise mine. Cela mine, surtout qu'il faut de temps en temps aller régler des différends entre locataires. Et certains différends sont vieux de plus de 10 ans. Et ce sont pour la plupart d'une bêtise pas possible. Donc à la fin de la journée de travail qui a été assez longue, car bien sûr, les personnes à aller voir sont libres qu'après des heures de travail. Ils vous disent « Je travaille, moi ». J'entendrai un vendeur leur dire « Et moi donc ?» Mais non, pour eux, cet employé de bon à rien, qui ne fait rien, parce qu'il n'est pas capable de résoudre le problème dans les minutes qui suivent, un petit jeune homme feignant qui ne fait rien, et en plus, toutes ces phrases d'explication qu'il faut faire pour leur dire que ce n'est pas au propriétaire à faire les réparations, mais au locataire. On le regarde d'un drôle d'œil et on lui dit « Mais je paye un loyer, moi. Alors, à quoi ça sert ? On est juste bon à payer, le propriétaire ne fait rien. » Il a envie de leur dire « Ça sert à vous loger. » Donc, après une journée qui a été rude, où l'on a entendu des tas de choses, Jean-André a eu l'impression d'avoir passé sa journée à régler des histoires de concierge. Il se sent là, abaissé. Il a l'impression d'avoir souillé son cerveau de choses basses et se dit que s'il continue ce travail là-dedans, il va devenir complètement gaga comme les gens qu'il reçoivent. Ce qui l'agace, c'est que son cerveau est tellement fatigué de ses bêtises qu'il ne peut plus faire autre chose. Le soir, dans sa chambre, il a toutes les peines du monde à se concentrer à son nouveau roman et même à écrire. Après quelques minutes, son front se serre, il a sommeil, il a des difficultés à écrire, mais une lettre avant l'autre. Il les forme difficilement, a des troubles de la mémoire. Il a des peines, toutes les peines du monde, à trouver certains mots. Il faut que je choisisse, écrire ou travailler. Avec mon père, malheureusement, si je lâche, ça va risquer de faire des scènes. Je vais tâcher d'écrire le matin en me réveillant. J'irai au travail plus tard. C'est ce qu'il fait. Il se force à écrire au moins 10 pages par jour pour se réhabituer à écrire. Petit à petit, la chose revient. Il reprend plaisir à écrire. Mais son travail prend de plus en plus, vient de plus en plus en second. Et souvent, il pense dans la journée à ce qu'il a écrit ou va écrire. Et pour ne pas oublier une pensée, il la marque sur un papier. Ce qui fait que petit à petit, son esprit prend plus de temps à son roman. Malgré lui, il s'applique moins à son travail et écoute les déclarations en ayant l'air sérieux, mais à l'intérieur, son cerveau vagabonde. Le roman sur Saint-Vincent se vend bien. Son éminence se fait connaître car il est fier de la préface du livre. Et l'autre roman avance mieux. Apolline a besoin d'être aimée et aimerait que Jules l'aime. Mais Jules semble préoccupé par autre chose. Elle va malgré tout une heure chez lui dans sa chambre, car c'est là où il se trouve le plus souvent. Vous me direz, que pense sa mère de ses rapports entre frère et sœur ? Trouve-t-elle normal que la sœur s'enferme dans la chambre de son frère pendant des heures ? Eh bien, elle se dit qu'il vaut mieux que les enfants s'entendent bien. Quant à savoir ce qu'ils font, il ne lui viendrait jamais à l'idée qu'ils aient des rapports trop intimes. Ce genre de choses n'existe pas.
Apolline est allongée sur le lit de Jules et lui est à son bureau. Il écrit. Elle lui demande « Jules, tu m'aimes ?»«
Oui, bien sûr. »
Elle lui demande « Mais tu m'aimes vraiment comme avant ?»
Il soupire.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.